France Inter.
J'en manque de chlorophylle.
CO2, mon amour.
Moi, quand on venait ici, c'était mes vacances, ils étaient là, mes congés payés.
Denis Chessou.
Ça fait 25 ans, moi, j'ai pas vu de campagne. Je suis obligé d'aller au Castorama, rayon jardinage, pour voir un petit peu de verdure. Mais ce qui me manque le plus, moi, c'est la fraîcheur. J'étouffe.
Sur France Inter.
Jean Rochefort, on adore. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec Cédric Diallo à la technique, notre collaboratrice est Camille Blanès. Et c'est réalisé par Juliette Gou et Maria Pasquet. Et qui commence par une petite humeur. Drone de drame dans le ciel ukrainien. Drone de drame dans le ciel du Moyen-Orient. Il pleut des missiles. La paix s'est planquée sous un tapis volant. Alors chez nous, d'autres attaques sont faites aux vivants. On casse les lois environnementales. On attaque la vie, des sols, des végétaux, insectes. Moratoire sur le solaire et l'éolien. Délire d'une réouverture de Fessenheim. Bref, la vie populiste d'une assemblée en chaleur. Recul de 25 ans des lois écologiques. Alors demain, l'eau, l'air, la nourriture, ah bah allez savoir. On disait qu'autrefois dans l'Antarctique, eh bien, les lemmings, devenus trop nombreux, couraient se jeter dans la mer. Volonté destructrice sciemment orchestrée par ces petits rongeurs ou panique générale. Sacrifice des nations au service de la survie des plus forts, loi cruelle que la nature impose. Seule solution trouvée à la famine générée par une surpopulation anarchique et dernier recours pour sauver l'espèce avant totale liquidation des effectifs. Après avoir servi de nourriture des toundras et des forêts boréales, eh bien, les lemmings ont aussi assuré le bonheur de tous les renards marins. L'arme à l'œil sur sa branche, la chouette lapone s'en souvient. L'air n'est plus aussi pur qu'autrefois, il est chargé de matières létales et de plomb. Et puis elle se dit, mais quand même, les humains auraient pu trouver d'autres solutions que la guerre, la destruction de leurs terres nourricières et l'exode. Puisqu'avant d'être artificiels, l'intelligence leur servait de front. Et qu'ont-ils fait de ce savoir, de cette intelligence, pensait la chouette? Eh bien, on sait tout sur tout aujourd'hui, sur les impasses et les routes à suivre. Vont-ils prendre les bons chemins? Côté nature humaine, rien n'est assuré. Jamais le petit lemming n'aurait mis en danger le territoire des autres. Alors au milieu de cette écologie mondiale et à la française, et là, je citais par Célia Quigret, un joli paravent pour que peu de choses avancent. Eh bien, on a quand même des bonnes nouvelles. Tenez, à Saint-Nazaire, cette semaine, au salon Winds for Goods. Cette semaine, eh bien, je rencontrais des armateurs, des industriels, des amis d'Éole qui réinventent le vent comme moyen de propulsion pour les marchandises. Des solutions mixtes, moteurs, kite, voiles, ou bien de beaux navires à voile, comme Neoline, Tote. Alors, utopie, mais pas du tout. Le monde d'après-demain est déjà en marche, les esprits virent de bord et roulier jeunesse. Vendredi, j'étais au Sénat, le colloque de l'Office français de la biodiversité sur la police de l'environnement, qui fut piétiné de façon ignoble. Présentation donc d'un sondage, et ça va nous faire du bien, sondage Louis Harris, 2072 personnes interrogées. 83% des Français de tout lieu, de tout milieu, trouvent les lois sur l'environnement nécessaires. 28% seulement les trouvent respectées et 66% veulent plus de contrôle. Donc vive les polices de l'environnement avec pédagogie à la clé, bien sûr. Nos élus et certaines chaînes d'information en continu ont-elles bien saisi le peuple ? Alors nous sommes en juin, et là, regardez, 5 petites têtes pointent au bord, maçonnées du nid des hirondelles, 5 perles noires observent le monde sous la charpente, 5 paires d'ailes frémissent avant de se jeter dans le vide et de tenter la grande aventure. Maman et papa, eh ben, ils sillonnent un ciel brûlant au marché du plancton aérien, les tarifs sont prohibitifs. La cigale chante en Normandie, elle a ses 35 degrés. Eh, c'est le midi, oui, c'est comme un four. La nuit, Lucane et Pipistrelle prennent le relais dans les frondaisons. Drone de drame, oui, mais la vie, même sur les ruines, gagne toujours. Allez, direction la Lozère, vous l'avez compris. On va se mettre gentiment au frais. Une grotte, sa vie, son œuvre, celle de Dargilan.
Waiting around for the world to change.
Très agréable, très jolie playlist choisie par Thierry Dupin. Neil Young, Talking to the Trees. Donc, mais oui, bien sûr qu'il faut parler aux arbres. Alors des arbres, vous en avez sur le Causse Noire, mais là où nous allons, bah, évidemment c'est une grotte, donc il n'y en a pas exactement.
Nous nous trouvons à 120 mètres sous terre, sous le Causse Noire, en falaise et en bordure des gorges de la Jonte. Et c'est vrai que cette ambiance si particulière des grottes est vraiment emblématique du monde souterrain. Puisqu'on est en train d'écouter en fait tout le travail millénaire des gouttes d'eau. C'est grâce à elle qu'on doit cette très très grande galerie, cette rivière donc qui s'est infiltrée pour couler plus bas. Elle est maintenant sous la Jonte en réseau souterrain et elle a laissé tout cet espace qui a permis à cette grande galerie de se décorer. Donc là vous vous retrouvez dans une ambiance tellement particulière, le noir et juste le son des gouttes d'eau. Alors je crois que ça ramène à quelque chose qu'on a perdu, c'est le calme.
Voilà. Simplement.
Ça fait beaucoup de bien. Et puis aussi, ces gouttes d'eau, en fait, elles se transforment, puisque ce sont des gouttes d'eau qui deviennent des pierres, la calcite. Et je crois que ça nous évoque un petit peu de sérénité, de se dire que les choses se transforment comme ça, de si belle façon.
Alors vous l'avez compris, il y a 35 ans avec Sous de mon amour, j'avais un petit peu anticipé cette histoire de réchauffement. Et là, j'anticipe les canicules. Ah oui, c'est absolument formidable. Pourquoi ? On tient à vous. Alors je vous emmène au frais, là aussi, comme dans l'info, dans une grotte, dans ces très belles grottes lozériennes, celle de Dargilan. Alors la Lozère, c'est extraordinaire. Vous avez la Margeride et l'Aubrac, qui sont plus auvergnates de culture au nord. Vous avez le Causse Sauveterre, vous avez les gorges du Tarn, celle de la Jonque, le mont Lozère, donc granitique, la naissance du Lot. Et puis plus au sud, donc, nous avons le Causse Méjean, nous avons bien sûr les Goiles, et puis un bout de Causse Noire. Et oui. Alors on va quitter Mervès, et là, amis des grottes et de la géologie, des millions d'années avant nous et après nous, eh bien on vous attend. Les gouttes d'eau, après gouttes d'eau, se mettent à sculpter, tout à fait relax, parce que notre échelle de temps humaine de 85 ans... Les gouttes d'eau, elles s'en fichent. Dargilan, c'est le nom d'une ferme qui avait été construite au XVIe siècle, qui est juste au-dessus, donc ça n'a rien à voir avec l'argile en définitive. Et puis donc là, on va être dans les entrailles, dans la chair de ce Causse Noire, qui à l'origine d'ailleurs était boisé de chênes, et puis évidemment après ça a évolué. Et on va rencontrer Marie-Laure Donpasset, et on va dire Malo, parce que elle est connue sous le nom de Malo. Marie-Laure, petite, c'était son lieu, et aujourd'hui, donc c'est toujours le sien, elle l'adore. Allez, venez avec nous en Lozère, nous sommes dans la grotte de Dargilan.
Alors tout simplement, en fait, on a le Causse qui est du calcaire. La pluie qui arrive sur le Causse au contact de l'air puis de la végétation va se surcharger de gaz carbonique et en passant à travers les fissures du calcaire, elle dissout le carbonate de calcium qu'elle vient redéposer dans la grotte, dans cette jolie pierre qu'on appelle la calcite. Toutefois, pour en arriver là, il a fallu une grande, grande étape. Il a fallu d'abord la mer. Donc il y a...
Quoi, 200 millions, 300 millions d'années ?
C'est ça, en pleine époque géologique très connue, hein, puisque c'était l'époque du Jurassique, voilà. Donc des dinosaures. Donc déjà la première étape de la mer, puis ensuite de la karstification du massif, pour arriver maintenant à une visite touristique de la grotte de Dargilan. Ouais, ouais. Donc quelques millions d'années qui nous séparent de ça. Et je crois que c'est aussi ce qui touche beaucoup les visiteurs.
On l'appelle la grotte rose. C'est pas faux du tout, parce qu'on voit plein de reflets roses donc, ici.
Alors Dargilin, c'est son nom depuis toujours, hein, c'est la grotte rose, parce qu'effectivement, dans le calcaire, enfin dans de la dolomie, hein, puisque pour être précise, on est dans de la dolomie.
On n'a pas mis de sirop de grenadine. Hein.
Non, c'est vrai. On a donc ces oxydes de fer. Alors les géologues se chamaillent parfois, ce peut être aussi des déchets de matière organique. Mais en tout cas, mélangé avec la calcite, c'est ce qui donne toutes ces couleurs d'ocre, de brun, de rouille. Et moi qui connais bien la grotte depuis longtemps, je ne vous cache pas, Denis, que j'ai souvent l'impression qu'elle a rêvé comme un coucher de soleil alors qu'elle est à 120 mètres sous terre.
Alors vous, c'est extraordinaire parce qu'en fait, vous gambadez là depuis l'âge de 6 ans.
Tout à fait. Hein,
c'est ça, vous étiez absolument gamine, vous avez presque appris, enfin non, vous aviez déjà appris à marcher, il ne faut pas exagérer quand même. Vous êtes à la fois une fille à l'époque, une femme de plein soleil d'un côté, quand même le cagnard là, qui y va bien sur les causes, et puis à côté de ça, d'une fraîcheur folle.
Je pense que c'est ce qu'il y a de fabuleux dans Dargilin, c'est que déjà, c'est une grotte, je dirais, accueillante parce qu'elle est remplie de couleurs, vous avez entendu le bruit des gouttes d'eau, elle a un côté qui n'est pas austère. Donc enfin, j'avais absolument jamais peur dans Dargilin. Elle a ce côté de protection aussi, puisque comme vous le disiez, on arrive dans un endroit tout à fait fermé, tranquille, serein, et de fraîcheur, ce qui, par ces périodes de canicule, est bien agréable.
Oliver, ça a l'air d'aller très mal.
Ça va très bien, au contraire. Qu'est-ce que vous attendez? Je vous ai dit de vous dépêcher.
Oliver, je vous en prie, cessez de répéter sans cesse, Oliver. Vous ne voyez pas quel est l'enjeu? Mais c'est le but que veut atteindre toute science pénétrée dans l'inconnu.
Vous rendez-vous compte que nous en savons moins sur la Terre sur laquelle nous vivons que sur les étoiles et les galaxies de l'espace? Le plus grand des mystères se trouve ici. Ici, sous nos pieds. Et maintenant, messieurs, si vous permettez...
Alors ça, vous voyez, là c'est un trésor. Attends, je te le fasse un peu plus.
Oui, puis on va se renfermer, peut-être on ne sait pas.
Ouais.
On ne sait pas. Alors non, oui, parce que ce son-là n'est pas exactement un son de grotte. Mais là, on rentre dans des entrailles qu'a priori le grand public ne connaît pas forcément.
Oui, exactement. Là, on est dans la galerie du tombeau.
Ouais.
Donc c'est une galerie qui avait été aménagée pour fêter le centenaire de l'exploration de Dargilin, donc en 1988. Toute cette partie, on l'a laissée dans le noir pour ne pas gêner l'expérience du noir au clocher.
Alors au début de cette opération, quand même, il y a un renard. Alors il y a un renard, il y a quoi? Il y a un jeune berger qui suit le renard, et puis hop, il rentre dedans, et c'est la première, on va dire, découverte, et non pas exploration, mais découverte de Dargilin.
Exactement. C'est le petit Jean Sahuquet qui ont gardé tranquillement ses brebis sur le plateau. Alors à l'époque, la fourrure de renard avait carrément de la valeur.
Bien sûr.
Donc il souhaite attraper le renard, il se faufile tout doucement comme ça à l'intérieur de la grotte, surpris par l'écho de sa voix, mais aussi les premières concrétions qu'il confond avec des fantômes. Il est terrorisé et il rentre chez lui. Alors c'est un petit peu sujet à caution, cette historique. On conserve celui-là parce que c'est effectivement le plus joli, mais probablement que le frère Néosten du village de Meyreis avait repéré déjà les grottes un petit peu, et peut-être même un docteur au XVe siècle, Samuel Blanquet, qui aurait déjà un petit peu répertorié les grottes. Mais comme on n'est pas sûr, on reste sur la découverte terrifiante de ce petit berger.
C'est ça.
C'est en tout cas cette découverte qui a alerté Martel, qui est venu, Édouard Alfred Martel, le fondateur de la spéléologie, qui est venu une première fois à Dargilin en 1884. Pour repérer la grande salle.
Et alors, ils descendent quand même avec une bougie, hein, pratiquement sur le chapeau, parce que c'était ça. Non, ils n'avaient pas de corde, ils n'avaient pas d'échelle, il n'y avait rien. Quoi.
Donc, exactement ça, vous ne croyez pas si bien dire. Il avait uniquement sa bougie coincée dans le ruban du chapeau, des échelles en chanvre, donc extrêmement lourdes. Et en fait, ils ont fait une exploration que même les spéléos modernes, on admire et on trouve vraiment impressionnante.
Parce qu'ils ont quand même découvert votre affaire de Dargilin en 4 jours.
C'est hallucinant. D'autant que la route de Meyreis n'existait pas encore.
Ouais.
Donc ils venaient à pied par les gorges de la Jonte à Dodane.
Ouais.
Donc il n'y avait pas que l'expédition de Dargilin, il y avait la marche d'approche qui était quand même assez conséquente. Ouais.
Il a été considéré comme le père de la spéléologie.
Absolument, oui. Parce qu'on avait fait de la spéléologie bien avant lui, même avant sa naissance. Car ce sont les Autrichiens qui ont été les premiers spéléologues, un pays très riche en cavités. Mais c'est vraiment Martel qui a ordonné, qui a classé, qui a fait de ces simples circulations ou explorations ou promenades souterraines, il en a fait vraiment une géographie souterraine.
Regarde. Hop, je te montre les aragonites.
Faites voir.
Hop là, voilà les aragonites. Alors, on en a très très peu dans Darjeeling, alors qu'on est dans de la dolomie, parce que la grotte est vraiment active. Il faut des milieux assez fermés pour que ça se développe.
Quand vous parlez de grotte active, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, de mon interprétation, en tout cas, c'est une grotte vivante. Ouais. Ce qui est un petit peu bizarre comme terme pour une grotte. Mais ça veut dire en fait qu'elle est toujours alimentée par de l'eau, donc toujours en croissance. Les gouttes d'eau déposent toujours de la calcite, les stalagmites et les stalactites grandissent. Et ça, c'est très intéressant sur le côté esthétique, parce que Darjeeling est une grotte qui brille énormément, qui étincelle. Et c'est vrai que malgré le réchauffement climatique, fort heureusement, pour l'instant en tout cas, le degré d'hygrométrie n'a pas bougé.
Alors là, maintenant, parlons quand même aussi de ce réchauffement climatique, parce qu'il n'y a aucune raison qu'une grotte non plus ne soit pas témoin du réchauffement climatique, comme elle l'a été un bon paquet de millions d'années avant notre présence.
Alors c'est vrai que là, je pense qu'il faudrait une caution un peu plus scientifique que la mienne, qui ne suis que guide de grotte, mais je pense que les grottes mettent beaucoup de temps à l'enregistrer, mais qu'évidemment, ça sera inscrit. Vous savez, souvent, on fait aussi des datations assez poussées sur les concrétions et on analyse les pollens, les traces de pollen. Donc ça, c'est captivant et je pense que malheureusement, à un moment ou un autre, ça sera inscrit dans les concrétions, ce qui se passe en ce moment. Sur Darjeeling, on a la chance d'être en Lozère. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de pollution qui vient de l'extérieur.
Non, c'est-à-dire qu'effectivement, au-dessus de nous, il peut y avoir donc des brebis. Mmh. On n'est absolument pas sur donc, de l'agriculture intensive, loin de là. La terre est pauvre, on doit avoir du seigle, de l'orge, mais vous n'avez pas de conséquences. Là.
Non, je pense que pour ça, c'est des milieux très préservés, hein, ouais, notre ça. Territoire. Après, moi, là où je suis inquiète, c'est vrai, c'est que c'est au niveau des lacs, des gours.
Parce qu'on les voit, alors ce qu'on appelle un gour, donc.
Tout à fait. Alors un gour, c'est assez magique, c'est lorsque les rivières s'en vont, elles laissent un petit peu d'argile et les gouttes d'eau petit à petit imperméabilisent le fond, permettant comme ça une petite retenue d'eau. Et ensuite, des petites barrières de calcite se forment sur les bords et ça fait comme un petit lac en fait, un petit lac souterrain ou grand lac, hein, ça peut être très grand. Et ces lacs en fait donc, sont alimentés uniquement par l'eau de pluie. Donc ils ont tendance à se charger énormément l'hiver quand le climat est normal. Et à se vider un petit peu l'été, selon le niveau d'eau qu'ils reçoivent à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a subi plusieurs hivers très très secs, avec absolument aucune neige et très très peu d'eau. Et là, on voit des niveaux de lacs qui sont extrêmement bas.
Oui, alors évidemment, ce ne sont pas des réserves, on n'est pas sur des nappes phréatiques, hein, mais en tout cas, c'est quand même des marqueurs. Donc...
Tout à fait, on peut s'imaginer que les grottes sont un peu une fenêtre sur ce qui se passe un petit peu plus en dessous.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette grotte? Je veux dire par là que... On a un peu l'impression que c'est un personnage multiple. Oh non, mais il y a différentes salles, mais en même temps, c'est une unité, quoi. C'est...
Ah ben, vous croyez pas si bien dire, Denis. L'ancienne propriétaire de Darjeeling appelait Darjeeling la Grande Dame. Ah. Alors moi, je pense que c'est une très belle image pour Darjeeling, parce que c'est une grotte qui se découvre salle après salle. Au début, on rentre, on se dit « Ah oui, c'est chouette ». Et puis, petit à petit, elle devient de plus en plus belle, en fait. Et quand vous dites c'est une unité, oui, je pense que Darjeeling, elle a à la fois la diversité qui permet de rentrer en contact avec le monde souterrain. Vous allez trouver, mais alors, toutes sortes de concrétions, hein, de la fistuleuse, qui est la naissance d'une stalactite, à la draperie, on parlait tout à l'heure des gours. Donc on peut voir vraiment tout ce que la pluie est capable de fabriquer. Donc beaucoup de diversité, mais avec toujours, toujours, tout le temps, cette notion de naturel, de découverte, de simplicité.
Le point de départ, de toute façon, c'est notre eau, donc c'est l'eau qui tombe du ciel. Et après, qui va nous fabriquer donc ces rivières, des sources et donc des rivières, qui vont être énormes à une certaine époque, beaucoup plus calmes aujourd'hui, comme ça a été le cas des gorges du Tarn, des gorges de la Jonte, etc., ou du Verdon, peu importe. Et là, aujourd'hui, c'est ce travail-là dans lequel nous sommes.
Exactement. Moi, je crois que ce qui est très touchant dans le monde souterrain, c'est que l'eau cristallise le temps. Et en fait, je pense que l'unité aussi, elle est là, dans ce qu'on ressent, parce qu'on est inclus dans ça, l'humanité. On est inclus dans cette eau qui cristallise le temps. Sauf que notre vie ne représente que quelques centimètres, puisque les concrétions grandissent de quelques centimètres par siècle. Donc, je crois que ça renvoie à beaucoup de modestie.
Voilà, restez avec nous, évidemment, sur France Inter dans CO2 Mon Amour. Tout à l'heure, je parlais de bio-intensif, je ne devrais pas dire ça. Pardon, d'agriculture intensive, je ne devrais pas dire ça, parce que justement, on pouvait avoir très bien du bio-intensif. Donc, c'est pas ça. C'était plutôt agriculture gentiment destructrice. Attendez, on sort la grotte et on va grimper sur un petit mont.
Les enfants forment une ronde, les monos sont jolis. À l'essu est belle, tête blonde au terme de chaussis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. L'air est si doux dans la bruyère, au monde sans souci. Dieu les enfants aime la sieste d'eau tout étourdie. Les filles de Cadet Roussel pendant ce répit. Venez pour une heure à peine voir les gars du pays. Venez chanter dans la bruyère au monde sans souci. J'en pinçais pour une infirmière, une brune plutôt jolie. Je suivais comme David Croquette son large parapluie. Au Cinévox, elle m'emmenait voir un guitar Johnny. Je n'avais qu'une idée en tête, le monde sans souci. J'aimais déjà dire je t'aime, je lui dis. Je savais que dans une semaine, elle serait loin d'ici. Tous ces amours de courte haleine embellissaient nos vies. D'un éclat mauve de bruyère au monde sans souci. Les baisers, le doux manège, viens donc que je te suis. Sauras-tu tenir ta promesse et m'aimer cette nuit. Quand s'entrouvrait la lumière, les portes du paradis. J'aurais passé ma vie entière au monde sans souci.
Un homme du Sancy, du Puy-de-Dôme et du Mont-Sans-Souci, c'était bien sûr Jean-Louis Murat. Alors vous imaginez donc un ciel qui est rempli de vautours fauves hein, quand vous êtes dehors, parce qu'ils ont été réintroduits dans les gorges de la Jonte. Et on remercie à la fois les frères Terrasse, Constant Bagnolini, etc., parce qu'ils ont fait un sacré boulot. Et on retourne donc avec Malo dans cette grotte de d'Argilan. Quelle mentalité on a quand même sur ces causes, parce que là donc on est à la fois sur le Causse-Méjean en face, ici nous sommes pendant le début des entrailles donc du Causse-Toir, mais je veux dire, ce fameux calcaire, ça fabrique quoi chez les gens?
Ah alors ça, je pourrais vous en parler heures Denis, moi je pense que nous sommes des gens qui tenons au vent déjà. Je m'explique sur cette expression, c'est qu'il y a beaucoup de vent hein, sur le Causse, c'est assez désert. Et je pense qu'on sait s'accrocher en fait, on sait trouver l'équilibre dans les tourmentes, voilà. Et on sait garder les pieds bien au sol. Comment je pense que mon pays m'a façonnée en fait? Moi j'ai le goût de l'ailleurs, hein, toujours, tout le temps, que ce soit sous terre pour aller trouver de nouvelles galeries ou voir le vaste monde. Mais je sais que j'ai besoin de retrouver très fréquemment cette lumière si particulière du Causse, qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi, je suis très chauvine aussi, je le reconnais. Parce que le Causse, en fait, c'est de la pierre, c'est de l'air avec le vent. Il y a très peu de végétation. Kayana, c'est beaucoup comme une steppe mongole, en fait. Hein. Donc, vous vous retrouvez un petit peu à discuter avec les cieux, je dirais. Voilà, avec tout ce que ça a de merveilleux au niveau du grand, aussi qui peut être angoissant parce que vous êtes aux prises avec les éléments. Et je dirais que c'est pour ça que nous sommes les Causse-Nards, en fait, nous sommes des gens qui tenons au vent.
Et puis il y a aussi cette notion d'immensité. On est sur un Causse, on est obligé de voir loin, quoi.
Ça, c'est un plaisir de laisser vagabonder son regard jusqu'à presque l'infini. Hein. Je pense que c'est un sentiment de pure liberté qu'on ressent sur le Causse. C'est particulier, nos grands causses en plus, hein, ce sont des causses calcaires, mais très haut en altitude. Ils ont un côté qui est vraiment intense, je dirais.
« Merci à Malo, donc Marie-Laure Donde-Passet, donc d'Argilan.
Oui, Malo, envisager qu'il y ait d'autres Ave Narmand, d'autres Abîme de Bramabio, d'autres d'Argilan, donc entre le Cosmégean et le Cosnoir.
Alors, aussi beau, bien sûr que non. Oui. On va dire mon côté chauvin. Oui, bien sûr. En fait, sur les quatre Cosses, là, les spéléos ont recensé plus de 8000 cavités. Et d'après les rapports des hydrogéologues, ça ne représenterait que 20% de ce qui doit exister.
Ah.
Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des cavités à découvrir. C'est vraiment comme un nouveau continent à explorer. Et les spéléos en trouvent très, très régulièrement et de très, très beaux réseaux, très concrétionnés. Après, le tourisme souterrain, c'est souvent une affaire d'homme. Hein. Il faut aménager, mettre en visite et tout. Donc il y a très peu de cavités qui sont aménagées. Il y a eu la salamandre il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, en général, c'est plutôt des cavités qui sont historiquement aménagées au siècle passé.
Alors faisons maintenant, quand même, rappelons aussi un peu les différences. Quand on parle d'un Aven, là, face à nous, un peu plus loin, donc c'est l'Aven Armand. Donc c'est Louis Armand qui l'a découvert. Le monsieur était donc forgeron du côté du Rosier. Voilà.
Exactement.
Donc cette notion d'Aven, c'est quoi ? Donc c'est un écroulement de surface ? Qu'est-ce que c'est ?
La différence entre une grotte et un Aven, c'est qu'une grotte, on rentre sur le côté et on ne voit pas le soleil. Un Aven, en fait, on peut pénétrer par le dessus, par des puits, des effondrements comme ça, et on voit quand on est à l'intérieur de la cavité, on voit le soleil au-dessus.
Alors vous êtes une grotte, comme on dit, de la vôtre ?
Ah, nous, on est une vraie grotte.
Oui,
il n'y a pas de trou nulle part.
Et d'ailleurs,
on
rentre sur le côté. Quoi. Oui, c'est ça.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est touchant, on a gardé l'entrée d'origine, c'est-à-dire que tous nos visiteurs passaient exactement par le même endroit que Martel, que le jeune berger et que le renard.
Ben voilà, il ne fallait pas se précipiter pour la remercier, surtout pas. Donc Marie-Laure Donde-Passet, merci à elle, donc, avec cette grotte d'Argilan que je vous conseille véritablement. Et alors là, ça a été, si vous voulez, le bonheur des rencontres, le bonheur de l'impro. Je sors donc de la grotte et sur la terrasse, j'entends un petit garçon là, qui parlait avec sa mère, qui parlait bien de nature. Voilà, le micro à la main, voilà, et puis j'ai demandé l'autorisation. Je ne sais qu'une chose, c'est que ce garçon se prénomme Loïs. Loïs, on est face à quoi là ? Raconte-nous.
Un arbre qui est, on va dire, mort.
Donc il a été coupé.
Oui, c'est ça, en deux.
Ouais.
Et là, il n'y a que l'écorce. Et sur l'écorce, il y a un autre arbre qui a poussé.
Ah ouais.
Et qui est maintenant à des feuilles, qui est pas mal. Ouais, qui survit. Je pense que c'est le même arbre.
Ouais, c'est le même arbre. Il y a une repousse, effectivement, sur un tronc au départ qui... on a vraiment l'impression qu'il n'y a que l'écorce. Et en fait, il a trouvé plein de force. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça, sur la nature ?
Bah, que la nature trouve toujours son chemin.
Et toi, tu t'intéresses à ça ? Est-ce que tu as même pas 10 ans ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la nature ? Qu'est-ce que tu regardes ?
Bah, la nature, c'est magnifique, c'est important, c'est comme une maman.
Ouais.
C'est pareil, en fait, c'est la nature qui nous... C'est grâce à elle qu'on est né. C'est notre maman, on va dire.
Donc il faut en prendre soin de sa maman.
Oui. Ouais, beaucoup, beaucoup.
Et c'est ce que t'as un petit peu envie de faire, tiens, pose-toi. On va se mettre là parce qu'on est face à un paysage qui est sublime, d'ailleurs, pas très loin, il y a un truc qui s'appelle le Point Sublime, tu vois.
Mmh.
Et là, donc, t'as une rivière donc, qui coule entre...
Le Tarn.
Ouais, exactement, donc le Tarn, entre ces deux causses.
Elles naissent comment, les pommes de terre, Walumama ?
Voilà une question très intéressante. Voyons voir si notre petite Naïra peut y répondre.
Les pommes de terre poussent dans nos champs, tout comme le maïs et le quinoa. Ce sont d'abord de toutes petites graines. Pachamama les porte dans son ventre. Elle les nourrit et les protège jusqu'à la saison des récoltes.
Comme une maman le fait avec son bébé. Et oui, nous sommes tous des enfants de notre Pachamama. C'est pour cela qu'il nous faut l'honorer et l'aimer autant qu'elle nous aime.
Est-ce que tu parles de nature comme ça avec tes copines et tes copains ?
De temps en temps, on s'assoit parce qu'on aime bien, on discute tous ensemble, toute la classe, on s'assied dans la cour.
Mmh.
On fabrique des abris pour les insectes. Je ne sais pas si ça marche vraiment avec les feuilles et tout ça, mais c'est amusant. On fait des colliers avec les fleurs. On a même essayé de monter une association pour protéger la nature, mais ça n'a pas trop marché. Bon, on n'a pas trop avancé.
Oui, mais ça marchera peut-être plus tard.
Oui, bah je pense, peut-être.
Quand tu vois ce monde aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu trouves bien? Qu'est-ce que tu trouves de moins bien?
Il y a ce que je trouve bien, c'est que il y a des... Les gens, ils viennent là pour voir la nature, pour passer des bons moments, en vacances, avec la chaleur, l'eau. Et ce que je trouve ça pas cool, c'est que il y a des gens, ils tuent des insectes, ils en tuent beaucoup. Mais quand ils voient une rivière, des gorges, ils sont « Waouh ! Oh là là, j'adore la nature !» Et c'est ça que je comprends pas, et je trouve ça pas cool.
C'est-à-dire que c'est ce décalage entre un moment, on va dire, d'admiration, et puis au quotidien, de malmener cette nature, quoi.
Oui, c'est ça.
Comment tu vois, toi, cette affaire de réchauffement climatique, qui n'est pas le seul problème, hein. Moi, je le rappelle toujours, parce qu'on se dit, c'est le réchauffement climatique, on va dire, qui cache un peu la forêt, mais il y a évidemment tous les autres problèmes, que ce soit l'eau, les inégalités, la biodiversité, etc. Mais comment tu vois ça, toi?
Moi, je pense qu'à un moment, on va tous se réveiller. On va tous, dans pas très longtemps, on va dire... Dans pas très longtemps, avec l'âge de la Terre, par rapport à l'âge de la Terre, peut-être dans 100 ans, on va se rendre compte que là, c'est pas bien ce qu'on fait. On va arrêter, on replante des arbres et on laisse faire la nature.
En fait, qui t'a initié, comme on dit, à la nature? Qui t'a donné le goût de la nature?
C'est mon papa, il est agriculteur. Du coup, tout petit, je m'amusais à planter, à aider mon papa à travailler avec lui. Parce qu'en fait, on travaillait dans les champs. On avait un jardin, il travaillait là, il vendait les légumes. Et moi, je l'aidais beaucoup, toujours, à travailler. Du coup, moi, le matin, je me levais et j'allais cueillir des fraises dans le jardin. Beaucoup de fraises pour manger. Et là, je me suis dit que c'est bon, les fraises. Et ça appartient à la nature.
Oui.
Et si je veux toujours en manger, il faut que j'aide la nature à survivre.
Et les animaux? Est-ce qu'il y a des animaux pour lesquels tu as des préférences?
Moi, c'est le serpent, le lézard. Moi, je veux être paléontologue. C'est ça, du coup. Voilà, moi, c'est plutôt mes préférences, les lézards et tout ça, parce que c'est les descendants des tyrannosaures.
En plus petit, mais c'est ça. Donc.
Oui, à peu près, parce que tyrannosaure, ça veut dire lézard géant.
Ouais. Et comment on a envie de devenir paléontologue?
Moi, en fait, je regardais beaucoup Jurassic Park.
Et encore Jurassic Park.
Ouais. Je les ai tous regardés, petits, vers 6 ans, 7 ans, je les ai regardés. C'était un peu violent, mais ça m'a plu.
Bonjour, bonjour, bonjour. Le parc d'attractions le plus futuriste du monde entier. Doté de toutes les technologies de pointe. Je ne pars pas seulement à des visites animées, vous savez, tous les parcs en un. Non, non, nous avons créé des attractions biologiques vivantes si fabuleuses qu'elles vont enflammer l'imagination de la planète entière.
Alors, en fait, quand j'ai vu les acteurs chercher des fossiles pour de faux, là, ça m'a donné envie, la tranquillité, la nature. C'est tellement intéressant. On peut jamais tout savoir. Là, ça va jusqu'à l'infini. L'infini.
Ben vous voyez, c'est pour ça qu'on se dit qu'après tout, ça donne du sens. On travaille aussi donc pour Loïs. Je vous dis, j'en sais pas plus, hein. J'ai même pas le numéro de téléphone, donc j'espère que ses parents écoutent aussi. Il pourrait écouter Bestioles. Et ben oui, parce que dans Bestioles, quand même, il y a des animaux préhistoriques aussi, hein. Vous en avez plus de 130 ou 140. Donc, c'était une aventure pleine de stalactites et de stalagmites, et c'était bestiolement génial, bien évidemment. Grand merci à Juliette Gou, qui a très joliment réalisé donc ce reportage, et aussi pour les 2 années donc passées ensemble. Ça a été mixé donc par Maxime Goudard. J'ai le temps de vous signaler un ouvrage que j'aime j'aime bien, qui s'appelle, qui est une BD aux éditions au Sud-Ouest, Dans les pas des gardiens de la nature, signée Plume et Olivier. Donc c'est l'histoire de femmes et d'hommes qui consacrent leur vie à la protection de la nature pour les générations futures. On va retrouver donc, effectivement un certain nombre de gardes un petit peu partout. Vous avez le numéro de Terre Sauvage du mois de juin qui est consacré au Tibet. Vous avez une interview de Claire Nouvian et aussi une très belle balade dans le géoparc que j'adore de Haute-Provence, donc qui se trouve au nord de Digne. Donc ça, c'est pour le Terre Sauvage. Et puis un autre qui s'appelle La Vallée du Vivant. Alors ça, c'est aux éditions Grand Angle. Édition Grand Angle, une autre BD, Voyage au cœur de la Biovallée. La Biovallée, c'est dans la Drôme. Donc c'est à la fois la renaissance de cette rivière donc, qui est la Drôme et puis aussi la création, parce qu'ils ont été très en avance sur le bio, de cette fameuse bio-vallée, donc la vallée du vivant, de Fabien Rodin et de Alicia Grande, voilà, pour ceci. Qu'est-ce qui me reste? Ben si, je remercie Maria Pasquier, je remercie Thierry Dupin pour ses disques, et puis on devrait se retrouver quand même le dimanche 31 août pour ce qui devrait ressembler à une dernière saison donc radiophonique, donc avec CO2 Mon Amour, le 31, je vous retrouve, je vous souhaite une excellente vacance évidemment, et je vous retrouve sur Instagram, sur LinkedIn et sur Blue Sky. Voilà. Et puis pour aujourd'hui, tout simplement, eh ben, je vous souhaite un bon dimanche.